Et tu sais déjà de quoi tu veux parler?
Oui,
ça marche.
Film, ouais.
Alors on y va. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comment tu t'appelles et de quoi, quel film tu vas nous parler, s'il te plaît?
Je m'appelle Hugo et je vais vous parler d'Interstellar.
Ah, un classique.
Ouais. Alors c'est mon film préféré parce que c'est un film qui parle d'une thématique, une relation entre un père et sa fille à une échelle cosmique, ce que je trouve très intéressant. Et avec un visuel qui est très inspiré de la science moderne, qui est très basé sur la science. Et Christopher Nolan, il a beaucoup insisté là-dessus. Donc pour moi, c'est un film qui est très puissant et intense et qui ramène beaucoup d'émotions dans un contexte qui est pourtant assez sérieux et même un peu sombre parfois, et qui le fait extrêmement bien. Et c'est très, très satisfaisant à regarder.
Qu'est-ce qui te plaît le plus? C'est la façon dont c'est filmé? C'est le côté Christopher Nolan avec des petites notions chronologiques un petit peu particulières,
ouais. Souvent, bah, c'est un peu
ou
tout.
C'est l'histoire, ouais. Ou c'est l'ensemble de tout
en ça. Fait, c'est un peu tout. Le travail de la musique est très fort. Hans Zimmer, il capte très rapidement ce que fait Nolan, donc ça marche toujours très bien. Et y a toujours une vraie intensité dans les films de Nolan, et ce film-là particulièrement. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé la science-fiction, donc ça m'a toujours beaucoup parlé, ce genre de thématique. Donc je suis content.
Voilà. Bah, merci beaucoup. À
Avec
bientôt.
Plaisir. À bientôt.
À tous les moldus, écoutez Graffiti Cinéma.
Comment on dit
hey,
déjà?
C'est quoi le texte?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez?
Laisse tomber.
Graffiti Cinéma.
Tcha! Graffiti Cinéma.
Salut à tous, bienvenue dans Graffiti Cinéma. Cette semaine, après une petite escapade chez Batman, il fallait bien un super-héros pour digérer ce mois Michael Mann, le vrai Mann, le grand Mann de toute l'histoire du cinéma. Michael Mann, 4 émissions, la dernière cette semaine, pour finir ce cycle consacré à un des cinéastes les plus talentueux, les plus emblématiques des années 80 jusqu'à aujourd'hui, sort en 2024 Ferrari, qui nous a inspiré ce cycle d'émissions. Ferrari qui ne sortira pas en salle, et c'est un vrai deuil pour tous les cinéphiles. Donc, on vous a concocté avec ces 4 émissions, un parcours complet sur la filmographie de Michael Mann. La toute dernière, cette semaine, vous découvrez Collateral, Miami Vice, deux grands films qui, eux aussi, ont été très intéressants, puisque Miami Vice est un film qui a été très mal perçu et très mal reçu, en tout cas, très mal compris. Collateral, un vrai film de commande, le seul qu'a réalisé Michael Mann et qui est devenu absolument culte à l'image de sa filmographie. Puis on va aussi parler, justement, dans une deuxième partie, cette semaine, de ces films un peu moins bien compris, un peu moins bien reçu, notamment celui dont on avait évité de parler dès la première émission à l'image d'un Voldemort, parce qu'il s'agit de La Forteresse Noire en 1983, qui a bien failli ruiner sa carrière dès son deuxième film en salle. La partie actuelle cette semaine, c'est l'intégralité de l'avant-première que Rebecca nous a enregistrée au Pâté Place de Loire du film Chasse Gardée, une comédie qui va bientôt sortir en salle, hein, très prochainement, et qu'on vous recommande très chaudement. On écoutera un morceau de la bande-annonce et puis on écoutera aussi la critique de Rebecca que vous avez déjà entendue il y a 15 jours, mais ça fait pas de mal de se rappeler un bon avis sur les films. Bienvenue dans Graffiti Cinéma, le mois Michael Mann se termine, on vous propose des films toutes les semaines, une partie actu, une partie thématique qui base l'émission, et on découvrira un nouveau thème dans les prochains mois. Aujourd'hui, en tout cas, c'est la conclusion d'un thème vraiment qui nous a passionné, Michael Mann. Vous retrouvez tous les podcasts et toutes les émissions de Graffiti sur Spotify, Apple Podcasts. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour soutenir les amis autour de la table que vous allez entendre tout de suite. Milan, Nodo Nicolas, Romaric, évidemment, c'est moi. J'entends, il faut bien que je fasse ma pub quand même. Vous avez également Geoffrey qui est avec nous. Graffiti Cinéma, c'est parti. On finit avec Michael Mann et on se retrouve tout de suite dans le hall du Cinéma Licarme en compagnie de toute la troupe pour parler de cette toute dernière émission et évidemment de ces tout derniers films du génie du cinéma qu'on est très heureux de vous avoir mis en avant.
Il n'y a que la cavalerie polonaise qui a pas fait le déplacement.
T'es vivant? Je t'ai sauvé.
Crois-tu qu'il serait reconnaissant?
Non. Mais de ça, il ne desserre pas les dents. Tu veux en discuter? M'envoyer me faire foutre?
On est toujours dans le hall du cinéma Les Carmes, on vous parle de la carrière et de la filmographie de l'excellent, du légendaire Michael Mann. On arrive en 2004, les amis, avec Collateral. Alors je vous le disais tout à l'heure, c'est surprenant, c'est le seul film de commande de la carrière de Michael Mann. Il se remet de l'échec, alors
très modéré hein, de Ali, parce que c'est vrai que d'un point de vue critique, il n'a pas eu des retours dithyrambiques. On rappelle qu'il y a eu Hit, qui est vraiment l'acmé populaire et critique de sa carrière, après Révélation, qui a commencé à dérouter des gens. Puis on enchaîne avec Ali, qui continue justement à avoir ces petites zones de malentendus. On revient avec Collateral, qui est le pur film de commande par excellence. C'est un script qui est écrit il y a 10 ans auparavant.
C'est pas son plus gros succès ?
Alors non, le plus gros succès, c'est Le Dernier des Mohicans.
Ouais, ça reste.
C'est populaire. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on voit que Collateral, c'est typiquement le film de série B. Avec tout le respect qu'on a et toute la passion qu'on a pour la série B, c'est que c'est un script de sous-genre, en quasiment une phase B pour un cinéaste, et c'est pas à ce moment-là destiné à un réalisateur comme Michael Mann. Donc le script au départ doit se passer à New York dans la première version, il est réécrit, Michael Mann décide finalement de partir là-dessus sur ce scripteur. Russell Crowe devait en faire partie, mais comme le projet prend énormément de retard, il est joué Vincent, le tueur, dans ce film-là. Michael Mann le récupère, le redéplace à Los Angeles pour vraiment décider de l'ancrer dans cette réalité-là et de ce repérage-là.
Un gars dans le métro, ici à Los Angeles, il meurt. Tu crois qu'on le remarquera ?
Collatéral, encore une fois, comme on le disait, c'est un film très linéaire, mais qui va avoir une particularité, parce que ça correspond à un vieux rêve de Michael Mann, de faire ce que vous voyez ici, un film qui se passe sur une nuit à Los Angeles. En une nuit, vous allez avoir Vincent, un tueur à gages, qui va prendre en otage un chauffeur de taxi, incarné par Jamie Foxx, qui va directement le prendre en otage, le forcer, en tout cas, l'amener faire des courses pour l'amener aller tuer des témoins à charge dans un procès très important. Donc on raconte en une nuit le trajet de ce chauffeur de taxi et de ce tueur qui vont devoir partager un habitacle et qui vont devoir rentrer dans ces fameuses zones de gris très propres au cinéma de Michael Mann. On revient dans un film qu'on n'attendait pas forcément, qui va devenir incroyablement emblématique dans la carrière de Michael Mann et qui va devenir un des films les plus cités en premier dans le style de Michael Mann par rapport à ceux qu'on évoquait tout à l'heure. Et pourtant, Collateral, au départ, on le disait, c'est un film de commande. Michael Mann n'a pas voulu le faire au départ, il a rattrapé le scénario qu'il a réadapté.
C'est le retour des taxis chez Michael Mann, quoi.
Il va nous refaire la blague. Il va nous refaire sa menacée. On n'est pas bien. Alors, Collateral, également, les amis technicos autour de la table, c'est également, là, pour le coup, on rentre de plein pied dans le cinéma numérique.
Ah,
là, on est en fond dans le cinéma numérique qui va être encore plus mis en avant, mais on rentre dans les deux films qui vont vraiment introduire le cinéma numérique chez Michael Mann, 2004 Collateral, 2006 Miami Vice. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette esthétique-là ? Qu'est-ce qu'elle change par rapport aux caméras et aux pellicules argentiques ?
Ah bah c'est là déjà sur ces films là on est sur des problématiques filmées la nuit, donc déjà on est sur une sensibilité, il faut une assez bonne sensibilité ou quand même blindé d'éclairage, enfin voilà, donc il y a déjà cette recherche là, c'est il voulait pouvoir voir les nuages, enfin se rapprocher, encore une fois on veut toujours essayer de se rapprocher de l'œil humain, mais là voilà, c'est vraiment des problématiques de nuit et tout, donc le numérique ne serait que techniquement. Celle-là a aidé pour ça.
Oui, on rappelle à nos auditeurs que le film commence de nuit et se finit au petit matin.
Voilà, donc,
c'est
le fameux,
incroyable.
Comme tu disais, une nuit de 12 heures. Enfin, c'est le fameux défi. C'est tourné en live. Hein.
C'est un rêve.
Et donc, ça amène aussi d'autres problématiques. Il commençait à y avoir de plus en plus, mais pas tant que ça, des LED en éclairage. Mais d'accord. Pas tant que ça encore. Et donc, il n'avait pas tout ce qu'il voulait. Donc, sur le plafond, comme c'est quand même pas mal aussi dans la voiture, il avait mis des claviers de Nokia.
D'accord.
Parce que c'était le mec, il avait fait tout, il avait soudé plein de claviers, je sais pas quoi. Tout le plafond était éclairé par des LED de claviers.
D'accord.
Ah ouais. Parce qu'ils n'avaient pas vraiment de LED panel ou de trucs qui se faisaient à l'époque, quoi. Ça se faisait pas. Donc ça a aussi, encore une fois, forcé à la créativité finalement. Et mais bon, comme on avait des systèmes D en péloche, hein, ça. Mais comme quoi, c'est la lignée logique, le numérique aussi, pour ce que ça peut permettre. Et on trouve toujours des à tricher.
Alors Mila, on va te lancer évidemment sur Collateral parce que c'est important, mais également juste comme on vous tient, c'est essentiel, c'est de rappeler que le numérique change complètement la perspective et la profondeur de champ. Mmh. Et c'est là aussi, ça va.
Pareil, c'est encore un choix d'optique, voilà. De boîtier, enfin tout ça. Quoi.
Mais on peut dire, on peut le rappeler à nos auditeurs qui nous écoutent, qui tombent pas comme des films quand on le voit par rapport à la pellicule, on a une profondeur de champ beaucoup plus ténue directement et ça change complètement la perception du film dans la netteté du grain. Ça, on n'en parle pas. Visuellement, ça se voit. Mais la profondeur de champ, quoi, elle change directement cet aspect cinématographique quand vous passez à des caméras numériques.
Ouais, en fait, Collateral de Michael Mann, il s'inscrit dans l'histoire du cinéma numérique de façon assez forte. C'est vraiment un film important quand on essaye à s'intéresser comment est arrivé le numérique et comment ça fonctionne. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le numérique, il n'est pas arrivé d'un coup, il n'a pas remplacé la péloche. Le premier film en numérique, c'est en 2001, entièrement en numérique. C'est Vidocq de Pitoff, qui est vraiment pas ouf.
Non, c'est clair.
Et depuis tout à l'heure, il nous fait des relances. Samina Seri.
Non, mais c'est vrai, par contre,
Vidocq, c'est le premier film entièrement en numérique, c'est Vidocq.
À chaque fois qu'on essaie d'être cérébral, il nous sort des punchlines, Samina Seri, Vidocq, mais laisse-nous tranquille.
Non, mais c'est vrai que.
C'est pas ouf, mais c'est le premier film. Ouais.
Bah, c'est un mec d'effets spéciaux à la base.
Oui, oui, on rappelle
il était à fond dedans.
Pitoff, on rappelle notamment que c'est un des grands collaborateurs de Jean-Pierre Jeunet.
Et puis il était sur les effets numériques, je crois.
Les effets numériques, notamment, on rappelle Pitoff pour lui rendre justice, parce que Vidocq est un très mauvais film, mais il était très, très bon technicien chez Jeunet, notamment Alien 4, par exemple.
Exactement, et les images de Jeunet sont.
On va pas de procès.
Et du coup, le numérique n'est pas arrivé d'un coup, et en fait, au début des années 2000, la plupart des films sont pas tourné entièrement en numérique.
Non, c'est de l'hybride.
C'est de l'hybride. On fait à la fois de la péloche, à la fois du numérique sur certaines séquences, etc. Et en fait, c'est à partir. Enfin, j'aurais tendance à dire que Collateral est assez important pour ça, parce que j'ai l'impression que c'est autour de 2005 que le numérique prend vraiment un ancrage très fort. Pour moi, le film qui va vraiment démocratiser le numérique et en faire vraiment quelque chose de grand dans le cinéma, c'est Zodiac, donc 2007, donc juste après. Mais Collateral, il arrive en prémisse de ça. Pour moi, c'est quand même un film qui vient poser le numérique comme une base dans le cinéma.
Contemporain, exactement. Parce que après, c'est toute l'exploitation. On n'exploite pas pareil, comme on disait, techniquement, en pellicule qu'en numérique et tout ça. Toute la chaîne de post-prod, tout est changé. Donc aussi, les mecs, ils y allaient à tâtons, fallait essuyer les plâtres et tout. T'as quelques réalisateurs qui s'est essayé. Des mecs comme Romero. Romero aussi, dans ces années-là, il a testé. Bon, c'était pas terrible. Mais le mec, le vieux, il a testé quand même de faire à la mini DV un film d'horreur et tout. Bon, chapeau, quoi.
C'était Romero et Juliette, il est pas sans.
Romero et Juliette. Le bon slasher, tiens.
Désolé.
Mais faut aussi se dire qu'il faut être couillu pour faire ça.
Alors on va revenir au personnage, parce que cet angle technique était essentiel, hein, c'était vraiment très important pour ça de vous avoir là-dessus. Max et Vincent en fait sont des ondes, des fantômes dans cette ville-là, et c'est ce qui est très important, c'est une réplique importante que ressort Vincent, donc le tueur
très cynique,
très cynique à ce chauffeur de taxi, parce qu'il va devenir son prof en fait, hein, il va l'aider dans certaines scènes,
son coach de vie. Il est tellement de la merde, fais ce que tu veux.
Voilà, exactement. Donc son pare-brise est cassé à un moment donné, donc le boss du chauffeur de taxi de Max lui dit rentre et tu vas payer le pare-brise. Comme Vincent a besoin de son chauffeur de taxi, il est obligé de jouer à l'avocat et de le défendre. Donc ce qui est très paradoxal, c'est que vous allez avoir un tueur en série qui va le défendre contre son patron, qui va lui donner des outils pour se libérer et qui va lui donner des morales justement sur ses rêves inaboutis de réussite entrepreneuriale. Et il y a un côté très cynique, très malaisant limite là, dans cette scène-là, dans ce film-là, qui est évidemment quasiment comique, dans le sens où on se dit mais ce mec a absolument raison, il est d'un cynisme absolu. D'ici demain, je claque dans le métro, personne verra que je suis mort ou endormi. On a quand même des répliques très profondes et on voit à quel point, oui, c'est un film de commande, mais on va avoir les thématiques de Mann qui sont essentielles ici. Hein. Les Nicolas, je vous lance là-dessus.
On retrouve ces personnages qui ont du mal à lâcher prise et qui sont pris dans leur quotidien complètement glauque et qui ont du mal un peu à sortir comme ça de leur marasme ambiant. Et on reparlait tout à l'heure des deux facettes de la même pièce. Bah là, clairement, on y est. Hein. On est vraiment sur ces deux personnages qui, au final, moi, à la fin, qui réellement prend en otage l'autre, quoi. Parce que le personnage de. J'ai oublié le nom du personnage de Jimmy Fox,
Max.
Mais en fait, Max lui apporte beaucoup en fait au personnage joué par Tom Cruise. Donc ils se nourrissent l'un l'autre, alors qu'en fait c'est pas clairement dit dès le début, c'est pas clairement donné comme clé. Mais à la fin justement, ils ont chacun avancé. Alors effectivement, c'est plus clair sur Max, mais je trouve que c'est là où le film est très malin.
Ah oui, complètement. Et puis après, les bandes son, une nouvelle fois, on pourrait le dire à chaque fois pour les films de Michael Mann, mais cette ambiance-là est terrible. Les premières couleurs, parce que c'est beaucoup de personnes qui vivent à Los Angeles le disaient dans les critiques de ce film-là, c'est la première fois qu'on voit les certaines couleurs que les habitants voient à Los Angeles, notamment une couleur abricot au coucher de soleil, au lever du matin, qu'on ne voyait pas dans le cinéma, parce que c'est évidemment pas la même colorimétrie. Et là, avec les caméras numériques, on va
découvrir... Il y a un côté clinique aussi, ouais. Non, avec la caméra numérique par rapport au personnage, les plans sont très près du visage, on voit le grain de peau, on voit des choses qu'on ne voyait pas auparavant.
Geoffrey, on va te lancer dessus. Alors les lumières, Geoffrey. Attention, une lumière.
Pardon, mais en effet, ouais, cette clinique, c'est les lumières LED assez blafard. Ça fait ouais, vraiment opposé à ce genre de couleur justement que peut traiter le numérique. Puis en plus, parmi les plans Michael Mann, il aime bien les heures dorées des plans comme ça. Et c'est une redécouverte, encore une fois, t'es avec du numérique. Avant, tu avais un choix d'émulsion assez conséquent par rapport à ta pellicule. Maintenant, c'est un choix de caméra. Pourquoi ? Pour les capteurs, pour machin. Enfin, c'est sûr.
On rappelle que l'émulsion, c'est ce qui permet, en gros, le traitement de la pellicule.
Oui, voilà, c'est ça, va, en fait. Ça, la sensibilité, la colorimétrie, si ça t'as plus je penche en jaune ou si ça va plus sortir. Enfin, et il y avait un choix très conséquent. Encore une fois, c'est un métier, faut connaître. Oui. Les chefs op pellicule, faut connaître.
Bah, on parlait de Pitoff tout à l'heure avec Vidocq. C'était son boulot, notamment en grande voilà. partie. Donc, les Darius Conji, les mecs comme ça.
Oui, le film a beau être une purge numériquement pour les effets et tout ça, tu dis putain à l'époque, chapeau. Bon, le film c'est autre chose, mais ouais. Sinon quand même, on peut pas l'attaquer sur les CGI, disons.
Alors le collatéral, peut-être un dernier mot là-dessus, Nicolas. Je sais pas si tu lances sur collatéral, puisque c'est vrai qu'après on va aborder les films qui sont dans des zones de réception plus de gris, en tout cas de malentendus, mais sur ce film-là qui a marqué un vrai retour au succès critique et public de Michael Mann. Alors c'est pas les chiffres du dernier des Mohicans, mais c'est vrai qu'il y a une forme de fin d'un âge d'or avant quelques films qui vont entrer dans des malentendus quasi perpétuels.
Non, mais c'est un film assez classique dans la filmo de Michael Mann. On retrouve tout ce qui a fait son style. Et, moi, je voudrais juste noter encore une fois, je suis très focus musique, mais on a encore une bande-son assez opposée. On a par exemple un Audioslave qui à l'époque est très contemporain. Et par exemple, Miles Davis qui dénote un peu ce côté anachronique. Et ça, c'est encore une fois, c'est assez typique. Et puis, on trouve toujours l'idée du duo. Et là, Nicolas l'a très bien résumé, qui finalement, au départ, est opposé. Puis finalement, la frontière est floue. Et on ne sait pas trop pour qui on doit avoir le plus d'empathie, finalement, l'un comme l'autre.
Et c'est une très très bonne conclusion pour ce film-là, parce qu'on voit directement, on évoque en tout cas cette scène de fin de Collateral en 2004. They Michael Mann, on voulait finir cette série d'émissions de sons autour de la personnalité de la filmographie Michael Mann avec une dernière catégorie de films. On a réussi à trouver des films chez Michael Mann, non pas qui ne sont pas intéressants, parce que vous avez compris qu'on n'aura pas cet angle-là, certainement pas avec un tel cinéaste et une telle filmographie, mais il y a des films, il y en a 4 que je vous ai mis de côté. Pourquoi ? Parce qu'ils commencent à rentrer dans une logique d'incompréhension, de malentendu. Alors, pour des raisons diverses et variées, mais on voit également, ça va également même permettre de mettre en perspective le courage du cinéaste qui s'est jamais resté sur ses acquis.
Cette forteresse n'est pas là pour empêcher quelqu'un d'entrer. Cette forteresse a été bâtie pour empêcher quelqu'un de sortir.
Il ne faut pas que vous restiez ici.
Quelque chose.
Est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchez? Est-ce moi que vous comptiez trouver?
Qui êtes-vous?
La chose qui nous tue entre ici quand elle veut. Rien n'est fait, aucune mesure de sécurité ne l'arrête.
Forteresse Noire, un film Paramount. Prochainement.
Alors on va commencer avec La Forteresse Noire, on va revenir dans le temps, parce qu'on vous le disait tout à l'heure dans les précédents podcasts qu'on ne parlait pas tout de suite de La Forteresse Noire, parce que c'est un cas très particulier dans la carrière de Michael Mann. Il n'a pas pu faire ce qu'il pouvait, à l'image d'un Alien 3 chez Fincher, dont il ne veut plus jamais entendre parler. La Forteresse Noire, c'est pareil, hein, Michael Mann, il a énormément de mal à en parler. On est en 83, on vous disait, 2 ans après Le Solitaire, qui est un magnifique succès d'estime et qui permet vraiment de lancer la carrière de Michael Mann, à tel point que Michael Mann commence à faire Miami Vice parce qu'il y a l'échec de La Forteresse Noire derrière et qu'il doit se refaire la crise scénaristiquement, économiquement. Alors La Forteresse Noire, c'est un film incroyable, The Keep en anglais, une ambition démesurée. Et encore aujourd'hui, on se demande comment il a pu arriver là. C'est l'équivalent du Sorcereur de William Friedkin qui vient adapter Le Salaire de la Peur. On est dans un film fantastique qu'il va écrire et réaliser. Et c'est une adaptation d'un roman. On est en Roumanie en 1941. Une troupe de soldats allemands vient investir un village roumain et il est sur le point de faire un oradour, on va dire, en quelque sorte. Quand même, on garde l'officier allemand sur le fait qu'il y a une forteresse qui n'est pas hyper clean dans le coin et qui paraît un peu surnaturelle. Évidemment, l'officier va dire mais qu'est-ce que c'est que ces paysans ? On va évidemment regarder ce qui se passe. Et on voit que l'architecture de la forteresse est inversée. On est dans un bâtiment très Lovecraftien, finalement, dans un sens qui est très inspirant dans le domaine des jeux vidéo. Et cette garnison de SS qui débarque en renfort va mettre à mal la résistance locale, va mettre à mal le village et ils vont évidemment débarquer, on va les enfermer dans la forteresse noire. Forteresse noire qui va mettre en place des éléments comme une créature essentielle qui s'appelle le golem qui vient menacer les nazis. C'est un film absolument dingue, parce que là je vous donne le scénario, tout le monde a envie de voir ce film quand on entend ce type de scénario. Il est ramené à 96 minutes dans sa version studio quand il sort, mais il était tellement démesuré dans son ambition qu'il devait être beaucoup plus long. Alors, on rappelle que la durée en général, une durée très 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 régulièrement retenue, c'était au départ un montage de 3h30 et que Michael Mann en général c'est pas moins de 2h30 hein, les films de Michael Mann. Donc c'est un film qui est aujourd'hui visible notamment sur la VOD de Canal+, et qui ne correspond pas du tout à la vision de Michael Mann au départ. On est dans un univers très gothique, là pour le coup, très expressionniste, on va être complètement déformé, on est très très loin des univers réalistes du Solitaire 2 ans auparavant. On est quelques-uns à avoir vu la forteresse autour de la table, et on peut dire pendant un temps on était des élus, parce qu'il était quasiment invisible ce film-là. Si je vous lance sur cette forteresse noire qui est absolument incroyable, parce que là j'ai même pas parlé du casting, Scott Glenn, Ian McKellen, jeune, Gabrielle Byrne, jeune, Jürgen Prochnow sans la barbe, voilà, on voit à quel point on est dans un film devenu culte, malgré lui, non, en quelque sorte.
Moi je l'ai vu quand j'étais jeune en VHS et je l'ai revu dernièrement.
Et oui, c'était le seul moyen de le voir pendant très longtemps.
Sur MyCanal, mais moi je l'avais vu qu'en VHS il y a très 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 longtemps. J'en avais pas un super souvenir, j'avais toujours l'impression qu'il manquait Indiana Jones. Et non, mais vraiment, c'est à dire que j'ai l'impression que ce film c'était une continuité de la dernière. Le premier Indiana Jones.
Oui, ouais, complètement.
Voilà, parce que. Alors, non pas effectivement sur le côté nazi, mais plutôt sur le côté métaphysique, justement avec ce golem.
Le truc, voilà, tu dis non, ça existe pas. et tout ça, c'est l'air que... Et puis non, quand même, il y a un truc pas normal.
Il y a un truc pas normal.
On est entre deux genres.
Ouais. Grosse incompréhension quand j'ai vu ce film. Effectivement, ouais. Il souffre... C'est un énorme gâteau. Il y a plein de choses. Il veut aller dans plein d'endroits. Il y a plein de thèmes qui sont abordés. La filiation avec ce personnage de Ian McKellen avec sa fille. La rédemption aussi, le mal. Enfin, c'est très, très boursouflé. C'est un énorme fourre-tout. Effectivement, 3h30, ça m'étonne pas. Je ne savais pas qu'il y avait...
J'adorerais voir ce montage.
Ah oui, il serait assez dingue.
Il est très généreux et en même temps, c'est sa qualité, c'est son défaut. C'est-à-dire qu'on, y a, clairement, à la fin, il n'y a rien qui est vraiment achevé. Les arcs ne sont pas complètement...
Ça ne va pas jusqu'au bout. Il y a plein de trucs. Alors, moi, j'adore ce film, l'esthétique.
On est dans quasiment l'esthétique du film muet, là.
Pardon ?
On est quasiment dans l'esthétique de film muet.
Attention sur la lumière, en effet, faut pas le voir en qualité trop pourrie parce que c'est très sombre. Donc c'est pour ça, en plus, les vieilles VHS, mon pote, tu plisses les yeux. Hein. Mais c'est très tranché, en effet. Bon, on est dans du Michael Mann, très atmosphérique aussi, mais c'est pas du tout les atmosphères de d'habitude.
Oui.
Et on sent qu'il a voulu mettre beaucoup de choses entre le fantastique, le réel, toute la métaphore sur le golem, qui est une figure habituellement juive et tout ça, contre les nazis. Enfin,
on
l'a et tout, mais il a voulu mettre énormément plus, et au final, bah voilà, avec un mauvais montage ou en coupant les deux tiers du voilà, c'est on peut, il a pas réussi à raccrocher les wagons sur une heure et demie, et c'est normal parce que c'est très très dense dans tout ce qu'il a voulu dire. Mais et puis voilà, mais même pour les acteurs, c'est bien à voir pour voir Ian McKellen, comme on disait, vieux jeune, parce qu'il est né vieux, mais. Mais sinon tout le monde fait son taf, c'est un délire. Bon, et en plus début 80 pour la créature, les effets de lumière et tout, bah voilà, c'est une autre époque, hein. C'est normal, on n'est pas en du grattage de pellicule, mais limite, hein, mais voilà, moi je suis très attendri, j'aime beaucoup ce film par rapport à...
On a un peu l'impression, alors pour le coup le titre français, La Forteresse Noire, rend vraiment justice, parce que comme tu l'as dit, au niveau de la lumière, on est en plein dedans, alors que The Keep, bon, qui veut dire donjon en fait en anglais, mais on a un peu l'impression que c'est le brouillon de la carrière en fait, c'est son deuxième film, on a l'impression qu'il sait où il veut aller, puisqu'on retrouve un peu tout ce qui va faire sa patte, mais comme tu l'as dit, voilà, c'est un peu fourre-tout, ça part en tous les sens, et qu'il a besoin, et il le fera par la suite, de structurer, de voilà. Voilà. Mais on sent qu'il a ouvert sa boîte à outils, il a tout ce qu'il faut.
Mmh. Il a testé, trop, c'est vachement
trop,
bien. Ouais.
Qu'est-ce qu'il doit privilégier, qu'est-ce qu'il doit mettre en avant ou pas, mais il a tout ce qu'il faut. On retrouve l'aspect contemplatif, la musique, Tangerine Dream.
Qui, là encore,
est anachronique parce que quelque chose qui se passe dans les années 40 avec une musique synthétique, ça colle pas.
Mais
c'est un peu ce qui m'a déplu aussi. On va en parler peut-être dans Public Enemy. C'est la musique, elle est anachronique. C'est censé se passer dans les années 30. On a une musique moderne. Et voilà, moi, c'est un peu ça qui me déplaît.
Ça, et la façon de filmer Public Enemy, qui est extrêmement moderne, caméra, épaule, tout ça. Sur les trucs historiques, on n'est pas habitué. Sur les trucs historiques, en général, on fait des tableaux, des mouvements caméra, mais des mouvements amples. Pas du cam-épaule sur un braquage comme le Joker, en effet, dans Batman. C'est très très c'est voilà, c'est le cul entre deux chaises un petit peu, ce genre de... Young H.O. Raps Grateful Dead, back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express, out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open to him with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see? You can't replace him with cheap imitation for these generations.
C'est vrai que c'est important d'en parler, puisqu'on voit à quel point il aurait pu tuer sa carrière tout de suite. Hein. Et Miami Vice, dont on parlait tout à l'heure, 84-90, où il est showrunner, sauve en quelque sorte sa carrière, lui rapporte cette légitimité qui lui permet de refaire les films et le sixième sens. On va pas refaire l'émission sur les années 80, mais on y est totalement. Pourquoi je vous reparle de Miami Vice? Parce que dans Des Films Incompris, on refait un saut directement de 20 ans dans le temps, plus de 20 ans, en 2006, Miami Vice, on est dans la suite de Collateral. Et là, on a peut-être le film le plus cher de Michael Mann en termes de production.
Ah, il a de la gueule.
Il a une belle tête. Tête de vainqueur.
Il était hélas incompris à l'époque.
Il y a ce malentendu absolu, critique et public, parce que sur l'innocence de l'image de Michael.
Maintenant, il est vachement plus reconnu. Avec le temps, les gens y reviennent dessus. Ils disent non, mais attends, c'est frappé de faire ça à l'époque.
Alors, c'est un film très influent.
Ils se disent très belle influence. Années 80, voilà, on est entre deux encore.
Il y a une influence dingue de ce film-là, esthétiquement. En effet.
Mais à la moustache de Colin Farrell, tout le monde voulait l'avoir.
Oui et non.
Le Drive ne serait pas Drive sans celui-là.
Je pense que Drive n'aurait pas pu se faire si ce film-là n'avait pas existé. Effet. Alors, ça reprend un épisode de la série, je crois, de mémoire, un épisode de la saison 3, je crois, quelque chose comme ça, le script-là. Vous avez Sonny Crockett qui s'est toujours permis d'avoir ce nom de famille ridicule, et Ricardo Tubbs.
Qu'est-ce qu'on va dire?
J'avais complètement oublié. Ouais, finalement, Crockett, c'est pas mal.
Tu préfères Crockett ou Tubbs?
Tu veux quelqu'un de
Bon, alors, ils sont toujours à la brigade des stupéfiants de Miami. Ils mènent une guerre sans merci contre les trafiquants de drogue et les criminels de Floride. Donc, quelque chose d'assez classique, évidemment, quand on regarde Miami Vice et quand on connaissait Miami Vice. On passe aux caméras numériques qui ont troublé énormément les fans de la série et les fans de Michael Mann. Donc, à la fois, tout le monde s'est senti un peu offusqué en voyant le film. Et pourtant, dès la bande-son, alors il y a du Limp Bizkit, on parlait de bande-son, etc., des morceaux absolument dingues. D'un point de vue sonore, visuel, esthétique, Linkin Park, ouais, ça ressemble. On va directement avoir une influence sonore visuelle de ce film-là. On rentre de plein pied dans le numérique qu'on évoquait tout à l'heure avec Collateral et évidemment Ali. Miami Vice va même aller très loin parce que c'est une des premières fois, on parlait de lumière tout à l'heure, où on va avoir des comédiens qui sont dans leur décor. Quand le cinéma va toujours, et c'est une caractéristique du cinéma hollywoodien, découper les comédiens par rapport à l'arrière-plan pour les mettre en avant avec des lumières, comme tu disais tout à l'heure, et collatérales, pour qu'on les voit déjà tout simplement, mais également pour trancher avec les arrière-plans. Là, c'est une des premières fois où on les voit directement dans ce décor, sans lumière additionnelle, ce qui est très troublant parce que c'est les lumières de la ville qui viennent directement greffer sur les personnages.
On est dès le début dans l'action, encore une fois, sur une filature ou machin, dans une OP, encore une fois, les ouvertures à Man, tu dis qu'est-ce qui se passe, où on va et tout ça, les mecs ils sortent, et voilà, ils sortent de la boîte de nuit. Au début, et je me rappelle, on était tous on voit les nuages de nuit, ça rendait dingue. Bon, il y a du bruit et tout parce que ça, voilà, ça a fait tout un débat. Ah, le bruit, c'est pas beau, on s'en fout, c'est pas l'idée. Là, t'as l'impression d'être avec les cums, quoi. T'as l'impression d'être sur l'Europe, c'était assez impressionnant pour ça.
135 millions de dollars de budget et un grand malentendu critique et public, et pourtant, on voit en effet qu'on y revient à ce film-là, parce qu'en termes de mise en scène,
au cinéma, c'était super à voir.
Alors, comment on peut expliquer ce malentendu autour de Miami Vice?
Peut-être l'époque. À l'époque, beaucoup de films adaptaient des séries télé des années 80. Il y avait toute cette mode d'adaptation. Et du coup, je pense que quelque part, s'il a financé ce truc, c'est peut-être aussi pour ça. Parce qu'il y avait un engouement. Non, mais alors, pour moi, c'est un des meilleurs. Ouais, oui. Clairement, hein, c'est un des films que j'adore le plus par rapport à sa filmo. Mais peut-être que voilà.
Il y avait une
attente, ouais. De alors, à l'époque, les Sorcières Bien-Aimées, les Allégeance Touriste.
Oh oui, ils ont ouvert là. Ils continuent encore.
Et on continue encore aujourd'hui, c'est vrai. J'ai vu l'abondance de l'homme qui tombe à pic.
C'est pas vrai.
Terrifiant. C'est un court-métrage quasiment pour Michael Mann. Hein. On est sur 2h12. Donc,
c'est des tableaux oniriques incroyables.
Ah ouais. Scott, qui est disponible en DVD en Blu-ray, où notamment l'intro du film est différente. Ça démarre par une course de hors-bord, si mes souvenirs sont bons.
Ah oui, pareil, de direct. Ouais. Ah, d'accord. Ah, oui, parce que c'est assez mythique, les hors-bord et tout ça, tous les trucs dans Miami Vice.
C'est ça aussi que moi j'apprécie dans ce film, étant grand fan de la série, c'est que c'est à la fois très différent, mais c'est à la fois très fidèle. C'est-à-dire qu'on va retrouver des éléments clés, d'ailleurs, ne serait-ce que la trame, elle mixe deux épisodes, je crois. On va retrouver tout ce qui fait vraiment le point fort de la série, notamment de la ville, mais il n'y a pas de censure. C'est-à-dire qu'on a des vraies scènes de sexe. Dans la série, il faut se rappeler qu'ils faisaient touche pipi en sous-vêtements, les acteurs. Hein. On ne pouvait pas filmer tout. Là, par contre, c'est un peu plus cru. C'est beaucoup plus réaliste, vous l'avez dit, la façon de filmer. On a vraiment les moyens d'aller tourner ailleurs qu'à Miami. Donc voilà, on met tout ce qu'il faut derrière. Mais en même temps, on retrouve les mêmes personnages, y compris les personnages secondaires. Le lieutenant Castillo, même si ce n'est pas Edward James Olmos, malheureusement, qui reprend le rôle. Ça aurait été un chouette clin d'œil. Mais on retrouve un peu les éléments clés de la série. Mais c'est évident, on n'est plus... il s'est passé 20 ans, on n'est plus dans le style années 80.
Ouais, ça a dû un peu
décevoir. En espadrille et en costard pastel. Et puis voilà. C'est tout.
Parce qu'autant, comme tu dis, ça respecte très bien les codes. Donc les fans n'ont pas à être déçus. Mais le fait aussi de le mettre, forcément dans le monde actuel. Forcément, on bouge aussi de Miami, on s'aperçoit que ça trafique beaucoup plus global, ça ne touche pas que Miami.
Il y a cette scène incroyable à la
un peu par rapport à ça. Et puis en effet, on ne peut pas garder les vestes pastel avec les manches remontées. Ah, au bout d'un moment, il faut savoir dire stop.
On dirait les Mini Vanille, foutez-nous là, les gars. Alors c'est vrai qu'il y a cette scène incroyable à la vanne qui est quasiment hors du temps et qui montre bien que Michael Mann revoit son cinéma. Et on va pouvoir faire la transition assez rapidement avec Public Enemies et Hacker pour finir cette série de films incompris. C'est que Michael Mann, on voit qu'au départ, on a des films très urbains qui sont dans des quartiers, dans des rues. On voit les mecs marcher à pied quasiment. Enfin, marcher à pied, c'est.
Marcher à pied,
la plupart du temps, c'est ce qui se passe en général. On voit les mecs marcher. Il fait vraiment à l'échelle de leur petit artisanat. Et là, on commence à tomber dans du banditisme grand international. On prend hors bord, on va à la Havane alors qu'on part de Miami. C'est quoi voilà, le problème? Et cette contraction du temps et de l'espace va vraiment devenir pour lui quelque chose, un vrai sujet, mais qui déstabilise complètement les fans de Collateral et les fans des films qui sont vraiment marqués dans le territoire, dans cette côté territorial du film de Michael Mann. Another madman, then stuck again. Rain and fire, cross the ocean. Another madman, then stuck again. Sitting down here, fall out of shelter. Paint my walls twice a week. Sitting down here, fall out of shelter. Think about the slave, long time ago. 10 million slaves, cross the ocean. They had shackles on their legs. 10 million slaves across the ocean. They had shackles on their legs. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Sun goes out, you'll be standing by yourself. Sun goes out, you'll be standing by yourself. 10 million slaves across the ocean, they had shackles on their legs. 10 million slaves across the ocean, they had shackles on their legs. Don't know where they're going. Don't know where they've been. Don't know where they're going. Don't know where they've been.
Et vous faites quoi exactement dans la vie?
Je suis John Dillinger, je braque des banques. Leur argent, c'est bien là-bas que les gens vont le mettre.
Pourquoi vous me le dites? Je sais pas. Vous auriez pu inventer une histoire.
J'ai pas envie de vous mentir à vous.
C'est une chose grave à dire à une fille qu'on connaît à peine.
Je vous connais.
Je ne peux pas en dire autant. Je suis jamais allée nulle part.
C'était pas toujours terrible là où je suis allée. Où je vais, par contre, c'est largement mieux. Tu veux m'accompagner?
Bon sang, ça, c'est de l'accélérer.
Si tu regardais ce que j'ai devant moi, toi aussi, tu voudrais accélérer.
Quand on enchaîne avec Public Enemy, c'est vrai qu'on revient à un cinéma historique, mais toujours en numérique, hein, en 2009,
oui, oui. Public Enemy. Pareil, très attendu par rapport, encore une fois, à la caméra, ses façons de tourner et tout. Ouais.
Alors, pour Public Enemy, en 2009, on peut directement, rapidement le présenter, pour, si vous n'êtes pas féru d'histoire américaine, et c'est normal, parce que ce n'est pas le brigand... alors, aux États-Unis, il est absolument culte, hein, c'est évidemment incontournable, mais si on parle de John Dillinger, qui est incarné cette fois-ci par Johnny Depp, Dillinger, qui est le grand criminel des années 30, en termes de criminalité, c'est le tube des années 30. C'est l'époque des Bonnie and Clyde, etc. Et c'est surtout un criminel avant la création du FBI. C'est les dernières périodes où vous avez encore cette criminalité américaine qui est très très caractéristique des États-Unis.
Encore de fédéraux, on pouvait, les mecs qui bougent d'un État à l'autre, on est foutu parce que les fédéraux n'existent pas.
Ce qui explique pourquoi il y a autant de tueurs aussi aux États-Unis, voilà. C'est que souvent ils bougeaient d'État en État.
Et en effet, aussi bien Dillinger et sa bande que Bonnie and Clyde.
Alors, Dillinger, on va raconter rapidement le film. Il n'est pas excessivement compliqué à résumer. Vous avez cette bande de John Dillinger qui mène des braquages de banque à l'ancienne avec la vieille pétoire.
Et Thompson et tout
ça. Et Thompson avec son chargeur circulaire, les galures, etc. Donc, vous avez quasiment des épisodes des Brigades du Tigre, hein, qui se passent à peu près à la même période.
Ouais, on est dans les incorruptibles.
Exactement, les incorruptibles. Et puis, vous n'avez pas les premiers âges du bureau d'investigation fédéral, puisqu'il faut faire le lien entre tous ces États pour arriver à mener une vraie opération contre Dillinger qui joue un vrai côté Robin des Bois,
ouais,
évidemment.
Très aimé par le peuple.
Très aimé par le peuple.
Ali, c'est un héros populaire, le gars.
Exactement. Alors, les épisodes, ça devient des épisodes de radio, ça devient des podcasts, ouais, ouais, avant l'heure, les aventures de John Dillinger quand on écoute les infos.
Incroyable, parce qu'en plus, ils volent les banques. Ils volent pas les gens, ils volent les banques qui, on a une période où tout le monde déteste les banques.
Exactement. Alors, c'est un film qui est très apprécié. Hein,
toujours maintenant.
Public Enemy. C'est un film qui est très apprécié, Public Enemy, mais il y a toujours cette forme qui n'est pas un blanc-seing dans la réception, dans le sens où il y a quelques zones quand même de malentendus sur la représentation de Michael Mann, parle le numérique de tout ce qui va être image, on disait tout à l'heure de style, image de consumérisme, image de synthé, image publicitaire, image de clip. C'est à ce moment-là vraiment qu'on va mettre l'adjectif clipesque sur la filmographie Michael Mann quand il se lance à corps perdu, enfin je disais à corps perdu, pas vraiment, mais quand il se lance à fond dans cet âge numérique de son cinéma. C'est pour ça qu'on est très, très curieux de voir Ferrari qui va sortir en 2024, là, l'an prochain, parce que Public Enemy, on a le personnage historique, le côté biopic, on a Marion Cotillard. Je sais pas pourquoi je balance ça comme ça, juste pour
arrête,
faire une bâcherie.
Arrête, les gens. Arrête, il y a plein d'autres trucs bien dans ce film.
Et qualité, à part Joey Pitman en quotidien.
Ah, voilà.
C'était juste pour une vacherie, c'est un running gag dans ce podcast, c'est méchant.
Mais moi,
méchant.
Je trouve pas que ça soit juste de dire clippé, parce que clippé, c'est aussi un c'est montage sûr. Rapide, machin, ouais. Machin. Lui, il est pas dans... C'est Baz Luhrmann qui te fait sauter les yeux.
Exactement, ouais.
Lui, ça peut être léché. Mais pas clippé dans le montage, je trouve que voilà, c'est pas tout à fait juste. Voilà.
Complètement. Non, c'est clair et net que c'est même plutôt ingrat de dire ça. Mais le fait de filmer des personnages historiques des années 30 en numérique est hyper déstabilisant.
Ça a choqué beaucoup de gens. Ouais.
Et il y a aussi ce sens-là qui est un peu métafilmique dans ces filmographies, c'est de rapprocher les images de clips, de vidéos, les vidéos que vous faites à l'arrache chez vous, du cinéma, qui pour lui a du sens, puisqu'il boucle la boucle. Hein. On part de cinéma très mise en scène qui va vous mettre en scène des choses parfois un peu chiantes, comme percer un coffre, et on arrive à des choses très spectaculaires qui sont filmées de manière, en apparence seulement, et seulement quand on regarde au premier plan, de manière très 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 basique. Pourtant, évidemment, ce grain-là, c'est pas juste une absence de travail ou un renoncement de cinéma de Michael Mann, mais c'est une source de malentendu pour beaucoup de personnes, ce cinéma numérique.
Ouais, le poids de la norme par rapport à tous ces films de gangsters très classiques.
Les codes.
Voilà, les codes, les incorruptibles, voilà, le poids de tout ça, et là, il y a un mélange des genres, des artifices qui deviennent artificiels, et qui sont mal digérés, donc c'est pas un mauvais film, mais c'est un film qui pour moi, je crois que c'est un des plus indigestes, parce que du coup on n'arrête pas d'être un peu en froid avec lui sur l'aspect formel, et du coup moi j'arrivais pas à me lancer beaucoup, dans l'histoire.
On bouge beaucoup quand même, on est limite dans du Soderbergh, caméra tout le temps et ball, c'est vrai qu'il y a un côté
Soderbergh Trafic par exemple,
voilà, il y a un côté en fait, les gens par rapport à ces vieux films qui qui se passent dans, ou qui dépeignent les années 20-30 et tout ça, ils sont habitués voilà, à un classicisme, des cadres assez fixes et tout. Et là, du coup, ça crée une distanciation parce que là, de le faire réel, comme si c'était filmé nos jours et tout, un gangster, ça fait bizarre. On est tout de suite plus proche. Et donc, par rapport à une fresque un peu historique, ça choque un peu. On n'est pas habitué à ça. Et c'est vrai que ouais, ça a déstabilisé beaucoup de gens. Moi, le premier, ça m'a, dès le début, un peu. Ouais.
Alors, dans le côté déstabilisant, on va finir cette série d'émissions consacrée à Michael Mann dans le hall du cinéma Les Carmes, au moment où il y a une séance qui va directement s'ouvrir derrière nous. C'est beau de faire ça dans le cinéma. Le dernier, jusqu'à la sortie de Ferrari, qu'on attendait avec impatience, c'était jusqu'à maintenant, c'est toujours jusqu'à maintenant, Hacker, qui est sorti en 2015, qui s'appelle Black Hat aux États-Unis, qui là, pour le coup, va aller au bout des obsessions numériques et de ce monde que Michael Mann ne comprend plus, que nous aussi ne comprenons pas. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir 80 ans, d'être d'une génération des années 40 pour parfois ne pas le comprendre. Mais on va ici tomber dans le grand banditisme très numérisé, très internet, très abstrait finalement, qui est impossible à mesurer. Et il y a cette séquence d'ouverture, tu en parlais, on joue souvent des ouvertures à Michael Mann, Geoffrey, de Black Hat, de Hacker, donc qui est absolument dingue, puisqu'on parle d'un circuit imprimé informatique qui va vous montrer littéralement, physiquement, ce qu'est un hacking d'un point de vue processoral au niveau du processeur, mais également d'un point de vue procédé, voilà, procédural.
Très technique, très professionnalisant, très carré. Ouais.
Alors, qu'est-ce que nous raconte Hacker, justement? Il nous raconte justement un informaticien, un pirate informatique qui vient directement pirater une centrale nucléaire en Chine, qui provoque une explosion importante. C'est ce qui est montré dans la scène d'ouverture. Le gouvernement chinois décide d'aller chercher un des meilleurs experts, le capitaine Chen Dawai, et également quoi, doit collaborer avec le FBI, qui va chercher directement un spécialiste, Nicolas Hathaway, incarné par Thor.
Chris Hemsworth
Thor, qui lit du Foucault en prison, hein, notamment Surveiller et punir. Non, mais c'est vrai, prof. On le voit directement, pas Jean-Pierre, l'autre.
C'est une vieille biographie sur qui veut gagner des millions.
Non, mais c'est vrai que c'est le petit easter egg où il lit du Michel Foucault Surveiller et punir alors qu'il est en prison, ce qui est assez génial. Un grand sociologue qui a analysé justement l'enfermement en prison. Et on a besoin donc de spécialistes qu'on va sortir en de prison pour contrer ce hacker. Bon, il y a un petit côté sixième sens, on va devoir chercher à collaborer avec le mal, oui, ou le gangster pour combattre le mal. Et il va mener cette enquête mondialisée où là, pareil, la contraction des espaces.
On n'a jamais été aussi mondialisé que dans ce.
Alors là, on se déplace de zone à zone de manière très rapide, on se croirait dans un Star Wars. Il n'y a plus du tout la mesure du temps, de l'espace, des distances comme on faisait dans les premiers films. Et c'est là aussi qui peut déstabiliser pour beaucoup, mais également le fait qu'il a un regard où tout est abstrait et impossible à filmer. Il y a une scène où il y a un piratage de Wi-Fi où les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe, et on voit rien.
Et voilà.
On peut en parler, Nicolas.
C'est le problème de ces films.
Immatériel.
Ouais, avec des enjeux qui en plus vont très mal vieillir. C'est-à-dire que ces scènes de hacking aujourd'hui, enfin le film n'est pas si vieux que ça.
C'est forcément.
Mais même quand il est ouais. Peut-être qu'il a pu. Et moi, clairement, je l'ai vu quand il est sorti. J'ai pas du tout été impressionné. Mais il est inregardable. J'ai essayé de le relancer. Il est inregardable aujourd'hui parce que du coup, on met de l'enjeu sur des trucs qui aujourd'hui, on en a plus rien à faire. Je veux dire, la mondialisation et le hacking. Enfin, franchement, c'est des thématiques qui nous, on en a rien à faire qu'un petit étudiant dans son bureau.
Il y a un côté James Bond qui a vieilli. Oui. Bon, bah là, à ce moment-là.
Oui, mais il est même pas classe, quoi. Il a même pas ce côté.
Pourtant, elle est très moderne, hein, parce que Michael Mann le dit, hein, le scénario pour lui n'était pas prêt de tourner, donc la responsabilité de l'échec, et il la prend pour lui. Alors, on va vous citer justement quelque chose d'important que dit Michael Mann à ce titre-là. Le sujet était peut-être trop en avance, parce que beaucoup de gens ont pensé que c'était de la pure fiction, alors que faux, tout est basé sur des faits
réels. En fait, on voyait ça plus dans des James Bond ou dans des films où il y avait plus d'action autour de ça.
Ouais.
Et là, en faire un truc, non, c'est réel et tout ça, c'est un peu comme le film avec Cassel et petit agent secret. Tout le monde, attends, il n'y a pas d'action. ouais, mais c'est ça la réalité aussi, mon gars. Et là, c'est ça la réalité d'un piratage à grande échelle qui peut tout à fait arriver et tout. Il a voulu montrer ça, encore une fois, de manière un peu chirurgicale et très professionnelle. Mais par rapport à ce que les gens sont habitués sur ce genre de truc, on est plus habitué à un méchant de James Bond, un Elliot Carver dans je sais plus quel James Bond avec le mania des médias et tout ça, que sur du piratage de données ou des médias, qu'un truc réel qui peut en plus affecter qu'il est censé faire peur. C'est un peu la somme de toutes les peurs.
Mais
ce
c'est censé nous faire peur, alors qu'en fait, on n'est pas du tout happé par les enjeux.
Il n'y a pas d'enjeu.
On n'en a rien à faire. Et que le gars réussisse ou pas, clairement.
Et ça, c'est voilà, pas très coup, important, on a pas le personnage.
Oui,
le perso, on s'en branle jusqu'au bout.
Oui, clairement. Qu'il réussisse ou pas, qu'il finisse en prison ou pas. On n'a pas, pas d'empathie. Et
c'est
et
quelque chose qui parle finalement à notre époque, parce qu'on est dans une période assez fade, assez aplanie, où on voit que finalement beaucoup de remakes de classiques des années 80, quand on les fait aujourd'hui, n'ont plus de style, en tout cas n'ont plus de mise en scène, n'ont plus de sens. Cette perte de sens, elle est très proche de ce que Michael Mann évoque justement dans toute sa filmographie, le fait d'être atomisé, d'être un individu parmi tant d'autres, de plus avoir de liberté, d'être oppressé par des systèmes qui nous dépassent. Hacker referme cette boucle-là quand même. C'est pour ça que Ferrari est très intéressant, parce que Hacker fermait très bien cette boucle-là. On s'attendait à ce qu'il fasse plus de films, et là on annonce Ferrari, donc on rappelle en 2024 en ouverture sur Prime, qui va sortir. Peut-être qu'un jour on aura l'honneur et le plaisir de le voir en salle, de le premier en salle, pourquoi pas. Et puis également Heat 2 qui est annoncé comme pré-produit, qui sera la suite officielle.
Pour le casting, je sais pas comment dire. Enfin, c'est ça, qui m'épate le plus quand tu fais un casting, sachant que bah il y a quand même au moins un personnage qui doit revenir, quoi.
Alors justement, pour bon état, pour ce qui revient en deux minutes, moi je vais vous lancer. Dites-moi votre en ouverture, pour finir sur quelque chose de positif. Parce qu'après, c'était pas négatif ce qu'on disait sur les films moins bien reçus. On essayait vraiment de le mettre en perspective et de l'expliquer. Mais en une phrase, votre Michael Mann préféré et pourquoi? Alors Nicolas, je vais te lancer.
Moi, clairement Miami Vice, avec ses plans oniriques, ses tableaux. C'est vraiment une... J'ai l'impression d'être au musée, clairement.
Ok, alors Geoffrey, si je te lance sur ton Michael Mann préféré.
C'est pas facile, parce que j'ai un énorme amour pour Le Dernier des Mohicans.
Oui, bien sûr. Ouais.
Pour sa scène d'ouverture, comme pour tout le film. Mais c'est pas ce qui représente le plus Mann. Alors non, moi je vais rester sur Heat, qui m'a aussi bien sur les deux monstres, les deux monstres qui sont absolument géniaux et très très bien dirigés en plus, que les choix de cadre, de composition, la fin que j'ai trouvé très très bien, la musique pareil, du Moby, enfin tout, je trouve que tout se raccroche bien, quoi.
Très bien, Nicolas,
pour le fond et la forme.
Si je te lance également sur le Michael Mann préféré, pourquoi?
Manhunter, définitivement, c'est ce qui m'a le plus marqué. Et tu nous as aussi demandé en préparation s'il y avait une scène particulière. Et moi, je voudrais rajouter dans Heat une scène, un plan où on voit le personnage de Niro dans son appart avec la vue sur Los Angeles la nuit.
Ah, ça, c'est
ça magnifique. Et ça m'avait marqué. Ah, ouais. Et je l'ai vu au cinéma quand il est sorti en 95 et ça m'est resté gravé, quoi.
Jean-Baptiste Aurec a écrit le bouquin également qu'on vous conseille, parce qu'il y a le Rocky Rama qui va sortir sur Michael Mann, allez sur leur page, hein, Rocky comme Rocky, Rama comme Rama, et on vous cite justement, comme tu en parlais, Jean-Baptiste Aurec parle du film cinéma de Michael Mann, et ce plan de Robert De Niro regardant l'horizon est devenu la signature évidemment essentielle de son cinéma. Alors Milan, évidemment, on va te lancer également sur une scène ou ton préféré de Michael Mann, ou éventuellement est-ce que dans ceux qu'on t'a présenté il y en a d'autres pour lesquels t'as envie de compléter ta collection?
C'est compliqué en fait, parce que j'ai vu deux films de Michael Mann et j'ai pas aimé. Du coup, bah, c'est compliqué de se répondre à cette question.
Pourquoi on finit avec ce mec?
Par contre, ouais, exactement. Moi, La Forteresse Noire, là, pendant que vous parliez, c'était intéressant. Mais j'étais en train de mater les images de La Forteresse Noire. Je vais mater ça. Ça, je vais le mater.
Essentiel.
Ça m'intéresse.
C'est très important de le mater. Et puis, je citerai en ouverture, moi, mon doudou. Alors, évidemment, vous le disiez, il n'y a rien à sortir, mais on a tous des doudous dans l'œuvre de Michael Mann. Le Solitaire, pour moi, est très important. Et pas seulement parce qu'on le programme au cinéma Les Carmes, donc le 27, on vous rappelle une dernière fois, le lundi à 19h30. C'est la première pièce du puzzle. C'est un gigantesque puzzle, l'œuvre de Michael Mann. Et vous voyez qu'on ressortait des films. Mais comme c'est une filmographie qui a vraiment une densité et une logique du début jusqu'à la fin très importante, on vous recommande évidemment de voir l'ensemble des films de Michael Mann qui aujourd'hui ont pu être édités, même le maudit Forteresse Noire, vous pouvez le retrouver en très bonne qualité. Un grand merci en tout cas les amis autour de la table, c'était un plaisir d'en parler dans le hall du cinéma Les Carmes.
À bientôt.
Oui, à bientôt.
À cœur est-il?
Deux heures moins le quart, mais j'avance un peu.
Oh non, je vais me coucher.
On n'est pas mieux qu'à Paris ici. Le bois aussi est à vous. Mais vous pouvez pas empêcher les gens de se promener dedans.
Ah, c'est rien ça.
Bonjour. Ouais, les Parisiens.
Vous savez, on n'est plus Parisiens, hein. On a emménagé là.
Ça change tout. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas.
C'est génial. Bonjour.
À la campagne, c'est pas comme dans les grandes villes. On est solidaires.
Non.
Désolé.
Vous inquiétez pas, parce que la chasse, c'est mi-septembre, mi-février, donc c'est pas non plus...
5 mois.
Puis février, c'est un petit mois. Hein. Bon, tout le monde est là?
Oui.
Le mot d'ordre, c'est la sécurité. Compris? André, merde!
J'appelle mon père, il sort les fusils, on sort le bazooka.
Votre problème, c'est que vous avez quitté les fous de Paris pour les tarés de la campagne. Vous allez vous trouver un terrain d'entente entre gens intelligents.
C'est bien, ma chérie, c'est bien. Vive la chasse aux Parisiens.
Ils ont mis du maïs dans le jardin, les enfoirés, pour les attirer.
Dégagez!
Je pense qu'il y a un petit risque d'escalade.
C'est un sanglier! Attendez, c'est pas une servitude, ça, c'est un terrain de chasse!
Si je vous l'avais dit, vous l'auriez acheté?
Bah non!
Eh ben voilà!
Comédie très familiale, potache, avec voilà, un excellent Didier Bourdon. C'est un voyage à la campagne, un voyage initiatique, très rigolo, avec beaucoup d'humour, beaucoup de chaleur humaine, et puis voilà, c'est une immersion vraiment auprès de chasseurs. Et puis voilà, pour moi, c'est vraiment la comédie familiale là que je retrouve, et ça fait longtemps que j'ai pas vu un Didier Bourdon aussi pertinent, avec un tempérament très contrasté par rapport à voilà ce qu'il pense au départ des Parisiens. Donc ça l'amène à vraiment se repenser, complètement repenser sa vie de famille, pour pas bousculer celle des autres. Donc voilà, je fais pas de spoiler rien, mais voilà, allez voir Chasse gardée.
Bonsoir. Bon, on est très heureux d'être ici avec vous. J'espère que le film vous a plu. Je sais pas.
Oui.
Parce qu'il y a des chasseurs dans la salle. Non, ils osent pas, ils osent jamais. C'est courageux.
Est-ce qu'il y a des homosexuels dans la salle?
Non. Bonsoir.
Il est là-haut, monsieur le maire.
Ouais. Il est en prépa. Il prépare une école d'ingénieur.
Il est devant le monde de Nemo à cette heure-ci.
Il est couché. Alors, on est très heureux d'être ici. C'est un film qu'on a tourné l'été dernier dans la forêt de Compiègne. Voilà. C'est beaucoup amusé. C'est un film compliqué parce qu'il y a beaucoup d'animaux et beaucoup d'enfants. Voilà, là,
avec Jean-François.
Surtout Jean-François. Voilà, la scène la plus dure, c'est la scène de la poule, parce que Hakim et Camille ont grandi à la ville et du coup ils avaient très peur de la poule. Ils n'osaient pas la toucher. Mais sur les autres scènes, ça s'est bien passé. Voilà, vas-y. Allez, on a perdu Jean-François dans la forêt de Compiègne. Il voulait aller aux champignons, mais bon, on l'a perdu pendant des heures et c'était un moment un peu stressant. Je sais pas si il y a des questions.
Oui, alors si vous avez des questions, alors monsieur. Voilà, c'est ça, parce que comme c'est le. Juste pour commencer, alors comment c'est cette histoire commence-t-elle? Parce que vous nous avez dit tout à l'heure un peu avant que c'était votre scénario. Vous êtes un chasseur aussi, il ne faut pas oublier.
C'est une famille de chasseurs.
Né d'une chasse, une famille de chasseurs.
Mais il a tué toute sa famille.
Ouais. Donc il en a fait un film. Voilà.
Non, c'est le personnel de Benjamin, j'avais beaucoup de mal à tirer, je trouvais des prétextes. Mais oui, non, mais voilà, je suis une famille de chasseurs, donc c'est tous les personnages sont inspirés d'eux, parce qu'il y a de tout à la chasse, il y a des personnalités très attachantes. Et en plus, j'ai un deuxième défaut, c'est que j'ai grandi à Paris, donc voilà, j'avais les deux et je voulais un peu rigoler des deux, parce que les chasseurs ont des fois des comportements un petit peu, ils sont un petit peu près des maisons, mais aussi les gens qui arrivent à la campagne ne connaissent pas forcément les traditions, les animaux, et voilà, ils peuvent être. L'idée, c'était de rigoler de tout le monde. Voilà.
C'est s'amuser. C'est génial. Je ne sais pas si ça se sent, mais on a beaucoup rigolé, gars. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, j'en ai une sur Didier Bourdon. Alors, allez-y, après, on posera la question sur Didier Bourdon.
Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci pour ce film, il est génial. Étant d'une famille où j'ai eu pas mal de chasseurs, franchement top. Et la question, justement, rejoint, je pense, par rapport à Didier Bourdon, est-ce qu'en écrivant ce film, en faisant ce film, vous avez pensé au personnage des inconnus, justement, pour le clin d'œil avec le sketch des chasseurs? Pardon, des chasseurs.
Ah oui, quand on fait un film sur la chasse, on pense tout de suite à la galinette cendrée. Voilà, on a proposé le script. Alors Didier, il a pas dit oui tout de suite, parce que comme il avait déjà fait le sketch des inconnus, il savait pas s'il avait envie de revenir à la chasse et de refaire en fait le chasseur. Et en fait, quand il a lu le scénario, il a vu que c'était un personnage un tout petit peu plus complexe, avec des dilemmes, avec une femme, avec beaucoup de gens à manager, un peu des bras cassés, hein, qui sont... Et en fait, la proposition était différente, du coup il est venu. Il nous avait dit par contre, voilà, la galinette, ça appartient aux inconnus, je ne ferai pas de référence, et puis il n'a pas pu s'empêcher voilà, d'en faire une, donc on l'a monté avec son accord.
En revanche, on voulait vraiment vous remercier, parce que la salle a vraiment goulé encore...
Ah non, non, moi j'ai des questions.
Remercier parce que la salle a rarement ri autant, enfin, depuis que...
que je suis là, là. Je pense qu'on peut encore les applaudir, les remercier pour merci beaucoup pour un tel moment. Merci,
merci. Pourquoi vous avez fait ces graffitis? Pourquoi vous faites ça?
À cœur est-il?
Waouh, il est dur, le mec est dur, il est dur.
je la balance. M'en fous.
comédie très familiale, potache, avec voilà, un excellent Didier Bourdon. C'est un voyage à la campagne, un voyage initiatique, très rigolo, avec beaucoup d'humour, beaucoup de chaleur humaine, et puis voilà, c'est une immersion vraiment auprès de chasseurs. Et puis voilà, pour moi, c'est vraiment la comédie familiale là que je retrouve, et ça fait longtemps que j'ai pas vu un Didier Bourdon aussi pertinent, avec un tempérament très contrasté par rapport à voilà, ce qu'il pense au départ des Parisiens. Donc ça l'amène à vraiment se repenser, complètement repenser sa vie de famille, pour pas bousculer celle des autres. Donc voilà, je fais pas de spoiler rien, mais voilà, allez voir Chasse gardée, et je pense que vous comprendrez.